comment suis-je devenu végétarien après qu'on m'ait dit, tiens, voilà du boutin.
Ouais, c'était juste pour dire, quand j'entends des gens qui se plaignent à la radio ou dans la rue, moi j'ai qu'une idée en tête. Pour qui t'as voté? Sors-moi ton pédigré. Et après, je rigole un bon coup ou je pète un bon coup. Enfin, bon courage. Et surtout, que l'autre à Paris, il vous enlève pas votre émission. Vous êtes la seule émission où vraiment il y a des sujets intéressants et qui donnent à réfléchir. Merci beaucoup. Aslan, à Mougins, merci.
Bonjour, je voulais signaler que j'ai cherché à acheter les mémoires d'un Yukon, j'avais déjà lu deux fois, mais pour faire un cadeau, et il n'est plus édité dans aucune, chez aucun éditeur, dans aucune collection. Donc voilà, c'est un message pour les éditeurs de France et de Navarre, qu'il est absolument urgent de rééditer les mémoires d'un Yukon. Merci, au revoir.
Guy Hockenheim, en 1986, avait déjà diagnostiqué le problème dans sa lettre au plumassier. Drogué aux médias, à la popularité, tu ne tiens qu'à l'applaudimètre. Ton inexistence morale, chevalier du vide, révèle l'inexistence sous l'armure des croisés de notre génération blanche. Et cette inexistence est inscrite en tes initiales, BHL. Tu n'as même pas de nom à toi, rien qu'un sigle, comme RATP ou SNCF. C'était Henri de Bordeaux.
L'heure d'hiver. Maintenant que l'écologie est à la mode, en ce dimanche 28 octobre 2007, même l'heure d'hiver. Mais moi, je préférerais toujours l'heure bleue, l'heure où nous tombions amoureux, l'heure où dans les troquets, la fumée des cigarettes acheminait encore dans ses volutes les trajectoires convergentes de nos regards échangés. Ce sera bientôt interdit, je veux dire la fumée dans les troquets. Moi, je préférerais toujours l'heure bleue, l'heure non prescrite. Je veux dire qu'il ne fait suite à aucune prescription. L'heure imprescriptive, je veux dire qu'il ne donne aucune directive. L'heure imprescriptible, enfin, je veux dire qu'il ne tombera jamais sous le coup de la prescription. Mais voilà, l'heure légale ne sera jamais bleue, et toujours la loi cherchera noise aux amoureux. À part ça, la nouvelle la plus intéressante que j'ai entendue en ce dimanche 28 octobre 2007, c'est la météo d'Arte qui l'a donnée. Il fera 3 degrés à Tarbes cette nuit. Et c'est très important, la température qu'il fait la nuit à Tarbes, à certains moments.
Ah, cette petite musique que vous avez entendue, en... ça annonce ce qui va se passer dans la basse, j'y suis, jusqu'à 16h. Écoutez et votre âme vivra. Eh oui, à tous ceux qui s'inquiètent de l'emprise de l'islam sur notre culture, sur notre hexagone, sur ce monde judéo-chrétien que nous avons construit, que nous avons bâti, eh bien, et c'est vrai que l'islam est là. Eh bien, ce reportage de Dila Tebbi aujourd'hui va peut-être apporter de l'espoir à ceux qui redoutent cette emprise de l'islam sur notre culture. Et peut-être, vous allez voir, une solution. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je me suis inspirée des messages des auditeurs modestes et géniaux pour faire une petite poésie de saison. Poésie. Économie de marché ou économie dirigée, logique de la concurrence libre et non faussée ou logique socialisée, principe de l'offre et de la demande ou tarif administré, profit privatisé ou richesse partagée, tous ces petits ou de débat d'idées, tous ces petits ou de choix de société, tous ces petits où sont-ils passés? Ciao.
Oui, bonjour. Entendu hier sur France Info le matin, un commentateur Guy Ray annonçait que, selon une étude, les Français étaient de plus en plus séduits par le hard discount. J'imagine que dans quelques temps, on se réjouira de les voir de plus en plus séduits par les restaurants du cœur et le secours populaire. Voilà, Courage, fuyons.
Bonjour, Daniel. Je rentre de faire des courses et à Champion, là, ils viennent d'augmenter de 20% le prix des pâtes Champion. Ça m'embête beaucoup parce que j'avais l'habitude d'en mettre avec le foie gras. Bon, ben, je ferai du foie gras sans les pâtes. Salut à tous. Pascal de Brioude.
Nicolas, t'es où ?
T'es où, Nicolas ?
T'es caché ? Nico, t'es où ?
Il est là.
Oh non, c'est pas lui. Oh, t'es où, Nicolas ?
C'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet. Dis la Tébi, tendez l'oreille, et votre âme vivra.
Flight number 2, arriving from
New York. Comment on va faire pour manger ? On va manger comment ? C'est du faux jambon, c'est du jambon poulet. Ah, je mange avec le pain.
Un morceau comme ça. Et
ça, c'est quoi ça?
Tu manges pas, mon ami?
Si, moi je vais manger après. J'ai mangé une vingtaine de dates, donc là je suis un peu plein là.
Il y a une bonne ambiance. Hein.
Alors, c'est bien.
C'est bien.
Il y a une bonne ambiance, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus.
Il a changé ma vie.
Vous avez quel âge?
Il a 57 ans.
Et c'est arrivé il y a combien de temps quand vous avez rencontré
Jésus?
Il y a
longtemps. 93. Avec ma belle-sœur.
Vous étiez quoi avant ?
Musulmane.
Vous étiez musulmane avant ?
Mes parents musulmans. Oui, je suivais la religion de mes parents.
C'est une réalité, Jésus. C'est pas une histoire. C'est pas une légende. C'est une expérience personnelle, individuelle. Mais on voit que Matthieu croit à l'authenticité des faits qui sont relatés. Et Jean nous parle de cette parole qui s'est faite chair. Et il n'est pas étonnant que la naissance du Christ...
Alors voilà, combien sont-ils chaque année, ces musulmans, ces Français musulmans, à se convertir au christianisme ? Christianisme, ça ne veut pas forcément dire le catholicisme, d'ailleurs. Ça veut dire le christianisme, ça peut être diverses églises évangéliques, évangélistes, d'inspiration plus ou moins américaine. Toujours est-il que le phénomène gagne dans les quartiers, mais pas seulement dans les quartiers sensibles, un petit peu partout. On voit en France des Français d'origine maghrébine qui se convertissent à l'islam, au christianisme. Tout comme on s'inquiétait dans les années 70 de voir apparaître dans les mêmes quartiers ces épouvantables barbus qui longeaient les murs pour venir subvertir et endoctriner cette belle jeunesse, eh bien aujourd'hui, on voit ces pasteurs français, mais avec supervisés très souvent par des pasteurs et des superstructures américaines ou australiennes, qui viennent dans les quartiers et persuadent cette belle jeunesse, et pas seulement la jeunesse, vous allez le voir, que la parole de Jésus est la bonne parole. Alors qu'est-ce que ça représente pour ces familles, pour les uns et pour les autres, comme difficulté dans leur parcours pour cette conversion? C'est ce que nous allons découvrir jusqu'à 16h dans Là-bas si j'y suis. Tendez l'oreille et votre âme vivra.
Tendez l'oreille et venez à moi.
Il se passe un phénomène extraordinaire.
Écoutez et votre âme vivra.
Il y a aujourd'hui des Marocains, des Algériens, des Iraniens, des Tziganes dans ce temple protestant du Ruh al-Qudus, du Saint-Esprit. Il se passe pour moi un phénomène extraordinaire.
Il brille dans la poussière, il est bon. Il est sur la terre, les cheveux courts ou longs. C'est Jésus Révolution. Il chante Ave Maria en jean ou cravate ou bien
Jésus est une vérité historique, mais c'est une réalité spirituelle quand on en fait véritablement l'expérience.
Jésus!
Il stoppe, il donne le ton, il est pop, kitsch, classique ou non, jeune ou vieux, mais son nom c'est Jésus Révolution. Il mange quand il a le temps, il dort souvent ou pas souvent, rappelez-vous son nom c'est Jésus Révolution.
Jésus. Maintenant que j'ai connu le Seigneur, tout ça c'est fini. Parce que le Seigneur nous a libérés, nous a affranchis, et par son sang, nous sommes guéris, nous sommes purifiés, nous sommes... je sais pas, il a donné tout ça à la croix, il a souffert pour nous, et je trouve que c'est formidable parce que personne ne l'aurait fait pour moi. Il veut sauver l'humanité. La vie est merveilleuse avec Jésus. C'est une bénédiction.
Vous, quand vous vous êtes converti, vous l'avez fait en cachette ou vous l'avez dit à vos parents ou...
J'allais à l'église en cachette.
Pendant longtemps ?
Oh, pendant longtemps, oui.
Et
oh,
vous faisiez quoi en cachette ? Vous alliez au temple en cachette ?
Voilà, c'est ça. J'allais prier en cachette. Oui.
Mais qu'est-ce que vous disiez alors ? Je vais faire un tour, je vais faire les courses ?
Oui, c'est ça, exactement, oui. De mon mari.
Ah, votre mari n'est pas au courant ?
Il n'était pas au courant, mais maintenant il est au courant. Parce que Jésus m'a donné l'autorité. Il m'a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi devant le Père. Donc, j'ai dit, je prends autorité. Parce qu'il me dit, tu me mettras à la première place.
Sur votre main gauche, vous avez deux assiettes, une pour vous, une pour votre collègue. Il y a du porc ?
Non, il n'y a pas de porc.
Quand on est musulman, on ne mange pas de porc. Quand on est chrétien, bon, il n'y a pas de problème avec le porc. Est-ce que ça a été un problème pour vous, ça ?
Ça choque au départ, mais après, bon, ben, on s'y habitue parce qu'on sait que c'est comme ça et il n'y a rien d'impur dans... Je veux dire, si... Je pense pas que Dieu a interdit le porc parce que c'était impur, mais c'est parce qu'il avait une bonne raison. C'est parce que le porc, dans les pays chauds, ça donne des maladies. Et le porc, quand il n'est pas bien cuit, ça donne le ténia. Donc c'est surtout pour ça. Je veux dire, c'est pas pour parce que c'est défendu ou quoi que ce soit. Mais moi, je trouve pas... Je trouve rien d'impur dans la nourriture.
Que Dieu est grand et exalté en puissance. Il est plus majestueux que tout. Les cieux racontent sa grandeur et l'étendue manifeste sa merveilleuse création.
Donc là, ça y est, tu remplis...
Une marmite pour faire le fameux thé à la menthe fraîche. C'est une petite fête de Noël orientale, donc avec des amis qui vont venir un peu de partout, de Paris, bien sûr, des amis de l'Église réformée, le pasteur Monsieur Claveroli, et sa communauté, plus la communauté nord-africaine chrétienne de Paris.
Alors voilà. Voilà où nous sommes, et voilà ce qui se passe, c'est-à-dire ces musulmans qui se convertissent. Est-ce que c'est un phénomène de masse ? On ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement, tant on comprend. Ces conversions se font de façon discrète, parfois secrète, parfois douloureuse. Alors, ça veut dire quoi sur notre époque, sur notre temps ? Est-ce que c'était des phénomènes un peu comme ça, marginaux, inévitables, qu'on a toujours, qui sont toujours produits ? Ou bien est-ce que ça interroge, comme on dit savamment, notre époque ? Ou est-ce que c'est un symptôme de notre présent en désarroi, en déshérence, etc. Est-ce que ce sont là autant de stratégies
s'agit d'intégration. On le voit à travers le tabou alimentaire sur le porc, par exemple. On voit que, dans ce que disait cette dame, se convertir, oui, mais on voit bien que l'histoire du porc, ça la coince beaucoup plus, parce qu'évidemment, c'est des affaires culturelles, plus que cultuelles, et qu'on ne change pas de culture si facilement, sans avoir l'impression de se trahir ou d'être condamné par les autres. Ces phénomènes d'apostasie qu'on croyait à jamais révolus, ben voilà que ça revient. Il y a 30 ans, une émission comme ça est absolument inimaginable, et pourtant, eh bien, il faut bien imaginer cela.
On va orientaliser en même temps l'église. On va essayer de mettre un petit peu quelques décos. Alors, c'est qui ça, zéro? Ça, c'est la Belgique. Oui, allô? Oui, Déborah, tu vas bien? Oui, ça va. D'accord. Sans problème, au contraire, ouais, c'est bien. Si on fait comme ça, si tu veux, ouais, il n'y a pas de souci. Moi, je fais le spectacle et toi, tu chantes. Allez, Déborah, à bientôt, ma grande. Dieu te bénisse. Ciao. Moi, c'est la Belgique. C'est pour la préparation du one-man show.
De quand, ce soir?
Non. Je fais des spectacles aussi. Je fais des one-man show. Donc, Liberté, Égalité, Couscous. C'est des spectacles que je fais dans tous les théâtres, un peu en France, en Belgique.
Et c'est quoi le principe?
Ah, le principe, c'est simplement mon cheminement, mon parcours de vie, mais sous une forme plus un petit peu orientalisée, un petit peu avec des sketchs, pour faire passer ce message. On est nord-africain et on est chrétien. On est, c'est vrai, des ex-musulmans, mais on n'a pas trahi notre culture, on n'a pas trahi notre pays, on n'a pas trahi nos origines. Et ça, c'est pour nous essentiel, parce qu'on est quand même sous une loi qui s'appelle la loi de l'apostasie. Et pour un musulman, il n'a pas le droit de changer de religion.
Parce que toi, tu es chrétien depuis combien de temps ?
Depuis 15 ans.
Je me suis à quel âge ?
J'ai 38 ans, donc je me suis converti il y a à peu près 15 ans. Et puis, ce n'est pas un phénomène de mode, hein. C'est vraiment... Il y a énormément de personnes aujourd'hui, des imams, des fils d'imams aujourd'hui qui se convertissent. De nombreux musulmans se convertissent, pas par effet de mode ou pas par déception, mais pas vraiment par conviction. Excusez-moi.
Quand le téléphone file.
Oui, allô ? Allô ? Ouais, Ashraf, là, je suis en pleine réunion. Donc, si on peut se rappeler, comme ça, moi, je vais te mettre en relation avec les amis là-bas sur Avignon. La flashia. La anakha. Salam.
Le thé est bon ?
Ouais, il est excellent. Ahmed, c'est ça ?
Ouais.
Ah, mlih, mnin.
Ana Aljazair.
Aljazair, où est-ce que tu es ? Aljazair.
Fi Alqasr.
Ah, kouyes, mlih. Ana men le Maghreb, ou nini jaoujati men Aljazair, hatta hiya, men Wahran. Ahlan wa sahlan.
Je suis pas venu pour, c'est-à-dire pour la fête de Noël.
Oui, bien sûr. Hein.
Je suis venu parce que, bon, Michel. On a grandi ensemble.
Bien sûr. Et tu habites où?
Tu habites où?
À Aubervilliers.
Ah, mais c'est bien, je connais bien Aubervilliers.
Ouais. T'auras l'occasion en tout
mais
cas.
Mais c'est de la curiosité?
Non, c'est pas la curiosité, c'est Michel, j'ai dit, on a grandi ensemble. Et moi, je suis musulman. Et lui, il est bon, je suis chrétien ou catholique, je sais pas exactement.
Je suis converti à l'évangile, voilà. C'est-à-dire, j'ai trouvé Dieu un jour sur ma route. Et puis donc, je veux faire partager ça à ceux qui m'entourent. Quoi.
Vous vous appelez comment?
Moi, c'est Ahmed.
Ahmed, ouais. Vous êtes d'origine algérienne.
Voilà, algérien.
Vous avez dit, moi, je suis musulman, c'est-à-dire pratiquant.
Ouais, pratiquant.
Ce soir, vous n'êtes pas venu pour vous convertir?
Pas du tout.
Ça pourrait être possible?
Pour une autre personne, peut-être, mais pas pour moi.
Pourquoi?
Parce que musulman, on dit musulman, mais musulman, ça veut dire soumis uniquement à Dieu. Jésus était soumis uniquement à Dieu. Même dans le Coran, il dit, « Oh, enfant d'Israël, je vous appelle à croire en un Dieu unique, à n'adorer que Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et ne lui donnez pas d'associé. » Et nous, dans ce sens-là, le fait de croire que Jésus, c'est le Fils de Dieu, ou que c'est une partie de Dieu, ou que c'est Dieu lui-même, ça, pour l'islam, c'est de l'association. L'association à Dieu, c'est le plus grand péché, avant le meurtre. Et donc, je n'ai pas l'intention de me convertir.
Pour vous, ceux qui sont ici et qui étaient musulmans, ils sont dans le péché, ces anciens musulmans?
Oui, ils sont dans l'erreur. Et je demande que Dieu les guide et me guide aussi dans le droit chemin de l'islam. Et si je dis ça, ce n'est pas parce que je n'aime pas ces gens-là ou parce que je pense du mal de ces gens-là, c'est parce que j'aime ces gens-là et j'ai envie qu'on aille tous au paradis.
Personne n'a cru qu'il serait de retour. Personne n'a cru qu'il serait de retour. Et
Toi, t'es issu d'une famille musulmane pratiquante.
Pratiquante, ouais.
C'est-à-dire que tes parents pratiquaient, tes frères et sœurs.
Bien sûr, comme moi-même.
T'es le dernier, l'aîné.
Cinquième d'une famille de 11.
Cinquième d'une famille de 11.
Cinquième, ouais, d'une famille de 11, mais en tout cas, ouais, c'est bon. Ouais.
Allez, j'arrive. Donc, ta femme te demande de te dépêcher.
Voilà. Je suis dans les temps, c'est bon.
Et t'es né au Maroc.
18h13, j'ai 5 minutes de retard. Je suis né au Maroc, ouais. Le pays, c'est le pays, on peut pas l'oublier, on peut pas oublier nos racines. Je suis fier d'être marocain. Ouais, c'est bon. Il faut juste que tu m'envoies quelqu'un, Fatima. Sinon, on va le faire tous les deux.
Faire quoi ?
À gauche, à droite, transporter la potion magique.
Ok. Et quand tu t'es converti, c'est venu en cachette, t'en as parlé à tes parents, toute la famille s'est convertie ?
C'est un parcours qui est personnel, individuel. On le dit pas, on le cache parce que...
Ah, tu le cachais ?
Bien sûr, on a l'impression qu'on est le seul à avoir fait cette expérience. On a l'impression qu'on est le seul à avoir trahi.
Aujourd'hui encore, tu parles de trahison ?
Bien sûr, pour certains membres de ma famille, ouais. Je suis toujours le renégat, le traître. Allez, je prends ça. On y va. Hop, 1, 2, 3.
On sort de la cuisine de la paroisse pour aller dans la paroisse directement.
Voilà, voilà.
Avec ta potion magique, ton thé à la menthe pour ton Noël oriental.
Et merci infiniment de tenir le micro et la marmite en même temps.
Le Noël oriental avec Dilat Ebi. Qui confond une paroisse et la pièce d'un appartement. Mais voilà, c'est que Dilat Ebi, on sent bien qu'il a besoin d'une formation religieuse dans le pays qui est le sien maintenant et où le christianisme, jusqu'à preuve du contraire, est la religion dominante. Alors vous avez compris, on est, c'est le Noël oriental et celui qui parle beaucoup beaucoup, c'est Saïd Oujibou. Et pourquoi il parle beaucoup, Saïd Oujibou? Mais parce qu'il est l'auteur. Vous le saviez peut-être pas, mais on est très heureux à la base, et j'y suis, de vous l'apprendre, d'un spectacle qui s'appelle Liberté, Égalité, Couscous. Et c'est pas n'importe quel spectacle, puisque il s'agit d'un spectacle qui vous apporte la bonne parole et qui vous fait du bien. Qui vous fait du bien, et il suffit de tendre l'oreille, et alors vous voyez votre âme se mettre à vivre, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui pour la plupart des auditeurs de là-bas si j'y suis. C'est donc ce phénomène, encore une fois, dont on ne peut pas encore tirer beaucoup de conclusions, on serait bien, bien imprudent, mais en tous les cas, qui se produit cette conversion d'un certain nombre de Français musulmans à l'Église. Et certains sont... Ça a été pour eux ce que Dila ignore, mais un chemin de Damas, Dila.
Toi, tu t'appelles comment ?
Sofiane.
Tu es chrétien ?
Ouais, je me suis converti il y a 7 ans, en Alsace, à Mulhouse, dans une église évangélique, par un groupe nord-africain qui s'appelle Oasis.
Comment ça s'est passé pour toi ?
Je les ai rencontrés dans le marché. Ils distribuaient des tracts, puis moi, je suis parti. Et à partir de ce soir-là, c'était bizarre pour moi, quoi, de voir des Nord-Africains chrétiens. C'était... Parce que moi, j'ai grandi en Algérie.
Ouais, où ça ?
À Oran. Et puis, quand je suis venu ici, pour moi, c'était un arabe, c'est un musulman. Depuis mon enfance, c'est comme ça, quoi. Je suis né musulman, mes parents sont musulmans, toute ma famille, c'est musulmane, quoi.
Ouais. T'es venu en France il y a combien de temps ?
Je suis arrivé en France en 98. J'étais un an en Espagne avant, en 97, et après je suis venu ici en France. Et puis, moi j'ai une ancienneté bizarre, quoi. Moi, avant, j'étais un pickpocket, si vous voulez, quoi.
Ah bon ?
Je volais les sacs à main, je volais les portefeuilles dans les bus, dans les métros. C'était une vie. Après, je me suis converti dans ma religion, quoi, l'islam, mais j'étais toujours un trafiquant. Après, j'ai pas continué dans le pickpocket et tout, mais j'étais commerçant illégal, quoi. Dans le contrefaçon, parfum, survêtement, comme ça. Mais j'étais musulman pratiquant.
Ça veut dire quoi, pratiquant ?
Pratiquant, ça veut dire que je fais mes 5 prières, je fais le ramadan, je donne l'aumône.
T'étais musulman pratiquant, mais en même temps, tu faisais le business.
Ouais, le business, pour moi, le business... C'est légal parce que j'avais pas pour manger. Quand j'étais sans papier ni ressources ni rien du tout, pour louer un appartement, pour manger et tout, il fallait que je fasse le commerce et c'est pas interdit. Je suis resté 4 ans sans papier. Et quand je suis rentré à l'église, c'était pour l'idée. La première fois, je voulais jouer l'intelligent. rentrer dans l'église, et l'église, c'est des Français, et les Français connaissent la préfecture, ils peuvent m'aider pour avoir mes papiers. C'était la première idée que j'avais. Ça veut dire, je rentre, je fais la prière qu'on me, je lis, je faisais tout, je distribue les tracts, je fais l'évangélisation et tout, mais pour un but, c'est que je vais avoir mes papiers, après je quitte. Mais après ça, ça tournait tout sur moi, quoi. La seule chose qui m'a fait rentrer dans le christianisme et me convertir et accepter Jésus, c'était l'amour. L'amour, je ne l'avais jamais. Et après, ça commençait à tourner dans ma tête. Et c'est là où j'ai dit... Et c'était après 3 ans de ma conversion.
Vous, vous disiez, j'y allais au début en cachette.
Oui, parce que j'avais ce besoin d'aller prier. Ça me faisait du bien, ça me sortait un peu de mes soucis quotidiens et c'est comme un bonbon qu'on déguste, c'est merveilleux, ça vous donne vraiment l'envie de vivre, l'envie d'avancer. Si on a fait une bêtise ou si on a commis un péché, on lit la Bible, Dieu nous parle, il nous dit que des bonnes choses, ça veut dire repens-toi. Va demander des pardons à ton prochain, même si tu ne l'as pas.
Et le Coran ?
Le Coran, je trouve que c'est dur. Enfin, moi, je ne l'ai pas lu, mais ceux qui connaissent le Coran, il est dit, l'homme a droit à 4 femmes. Ce n'est pas normal. Ça n'est pas normal.
Bon. Il aurait fallu dire, l'homme et la femme, 4 femmes, 4 hommes.
L'égalité. Pourquoi 4 femmes ? Pourquoi ?
Et pourquoi pas 4 hommes pour les femmes ?
Pourquoi pas 4 femmes ? Nous ne sommes plus sous le coup de la loi, mais nous sommes maintenant sous le coup de la grâce, c'est-à-dire sous le coup de l'amour, l'amour de Dieu. Apporter l'amour autour de nous, apporter l'amour partout et ne pas faire la guerre, ça ne sert à rien. C'est diabolique tout ça. Alors nous, le diable, on l'écrase, on le jette, on n'aime pas le diable. Parce que Jésus, avec Jésus, c'est la liberté.
Donc toi, aujourd'hui, donc là, on est dans le temple. Ouais. Alors là, il y a écrit, tout en haut à gauche,
je suis le chemin, la
je
vérité.
Je suis le chemin.
La vérité et la vie. Nul ne vient ton Père que par moi.
Donc ça, t'y crois?
Ouais.
Ouais. Avant, t'y croyais pas, ça?
Non, non.
Qu'est-ce que tu penses de l'image, de la représentation qu'on fait de Jésus? Tu sais, les images de Jésus sur sa croix, grand, maigre, les cheveux longs.
Ça, c'est pas important. Tant que Jésus, il est dans mon cœur, il est au ciel, c'est ça l'important pour moi.
Mais est-ce que tu crois? Tu penses qu'il était comme ça, Jésus? Physiquement?
Non, non, non.
À ton avis, il était comment?
Je sais pas. Jésus, même dans l'islam, Jésus, c'est un prophète. Avant ma conversion, pour moi, c'est le prophète. Il faut pas les dessiner, il faut pas les caricaturer, il faut pas... Alors pour moi, ça veut dire que même s'il le dessine... Ça veut dire, j'ai toujours ma culture. J'ai pas changé ma culture. Je suis toujours nord-africain. Ma culture, ça reste toujours. Ça veut dire, c'est pas question, ouais, ça y est, je me suis converti maintenant, je suis chrétien, allez, c'est bon, je suis français. Non, 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 ça n'a rien à voir. Je suis toujours algérien, je m'appelle toujours Sofiane. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, moi, je vais. Tu vas te convertir, et après, ils vont t'appeler François, ils vont te dire, choisis un nom, tu te choisis Joseph. Ou...
Et on t'a demandé de changer de prénom?
Non, jamais. Jamais je change mon prénom. Ça reste toujours Sofiane.
Et toi, ta famille en Algérie, ouais. Ils sont encore là-bas?
Ouais, ouais, ouais.
Et ils sont donc à Oran, ils sont berbères ou?
Ils sont oranais.
Ça veut dire arabe, quoi.
Ouais, arabe. Mon père, il est de Tiaret, et ma mère, elle est du Sahara.
Qui vient... Parce que tu sais ce qu'on dit en Algérie, on dit ouais, oui, les Kabyles, ils disent. Kabyles.
Ouais, ouais, ouais.
Les Kabyles, nous.
Même moi, je pensais que ça. Même moi, je pensais que quelqu'un qui se convertit, c'est un Kabyle.
Parce que c'est un berbère. Et...
Ouais, ouais.
Alors qu'il y a des Kabyles berbères musulmans.
Ouais. Mais pour nous, même en Algérie, on dit que c'est que des Kabyles. C'est que les Kabyles qui se convertissent au christianisme parce que eux, ils veulent leur indépendance, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont Algériens, ils se croient qu'ils sont Français, c'est pour ça qu'ils se convertissent. Ils ont une cause. Même au stade, moi, je suis parti pour voir les matchs JSK Kabylie contre l'MC Oran. Les supporters oranais, quand ils chantent que les Berbères sont des Juifs. Comme ça, dans le stade, tout le stade chante la même chanson. Ça veut dire que tout Oran croit que les Kabyles sont des chrétiens ou sont des juifs.
Mais pas des musulmans.
Pas des musulmans.
Ne criez plus des dévots de toutes sortes, puisqu'il le faut, je vais me convertir. Depuis longtemps on me presse, on m'exhorte. En bon croyant je veux enfin mourir. On est bien fiers alors que dans la vie on voit de loin le but souvent trompeur. Mais vient un jour où l'âme s'humilie. Ce jour est le jour de la peur, de la peur. Je crois au Dieu qui créa ce bas monde lorsqu'il bâillait au céleste séjour. Heureux encore que sa bonté profonde pour le peupler et compter sur l'amour. Je crois au Dieu dont le cœur débonnaire fit des agneaux exprès pour me nourrir. Tous les mortels pour se livrer la guerre et le faible enfin pour souffrir, pour souffrir.
Tu vois ici, c'est le bâtiment de l'église baptiste, là. C'est un grand bâtiment, hein. Voilà, comme ça, au moins, on aura du support. J'espère qu'il est là. Si on n'a pas de DVD... Puis...
Mais des DVD de... quoi?
Je vais te montrer.
Donc là, dans ton
coffre, si tu veux, j'ai un carton, là. C'est un carton de Nouveau Testament, tu vois.
Et c'est quoi ce DVD?
Alors c'est un DVD sur un reportage, ça te retrace en fait l'histoire de l'humanité au départ, la création avec Dieu, quand Dieu a créé Adam. Ensuite à l'histoire avec Abraham, Moïse, tout ce que Dieu a fait au niveau des alliances. Mais en fait, tu vois l'avantage, c'est que tu l'as en plusieurs langues. Tu l'as en algérien, en égyptien, en marocain, en allemand, en anglais, en espagnol, en français, si tu veux. C'est bien expliqué, très courtement, mais bien expliqué.
Mais par qui? Par des personnages qui jouent?
Ah, c'est un vrai film, des acteurs, de vrais acteurs. Et après, tu as le film de Jésus de Nazareth. Donc sa naissance, son ministère, sa vie sur Terre.
En tout cas, c'est...
En fait, c'est bien précisé que tu vois que ce DVD est un cadeau. Il n'est pas à vendre.
Ah, c'est génial. Donc là, ce matin, tu vas aller au marché et celui qui veut le prendre...
Bah ouais, j'aurais...
Mais tu le donnes à quelle condition? À la condition que la personne avec qui tu parles est un petit peu intéressée. C'est pas la distribution.
Non, on fait pas de la distribution comme ça. On fait au minimum un contact. Puis si on voit que la personne est intéressée, j'aurais voulu en avoir beaucoup plus.
Parce que t'en as combien, là?
J'en ai qu'un, en fait. Et en fait,
ah,
si tu veux,
ça, je t'explique. T'as pas le bon carton.
Le carton, là, moi, je pensais que c'était un carton de DVD. Quand je l'ai ouvert, l'autre carton est parti sur
Strasbourg. Ça, c'est donc un carton... Donc c'est l'évangile. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est l'évangile.
L'évangile en deux langues.
Voilà.
Français, arabe.
Voilà.
Voilà. Alors là, on a bougé, si vous avez l'oreille fine. On est à Roubaix. Là, on était à Paris, dans le 8e, mais là, on est à Roubaix. Et on va rencontrer un autre pasteur. Oui, qui s'appelle Jamal, alias James. C'est le raccourci, ça fait plus évangéliste. Ça tombe bien, puisqu'il est évangéliste. Et on est donc à Roubaix, dans le nord de la France. Et Jamal, il va enseigner à toutes les nations, comme le Christ l'avait dit. Mais oui, allez enseigner à toutes les nations. Et c'est ce que fait Jamal, et c'est la solution, finalement. Hein? La guerre des religions, la guerre de civilisation, terminée. Il n'y a plus qu'un seul Dieu, c'est Jésus. Il faut que tout le monde l'accepte. Et c'est pas du gâteau.
Donc là, t'es un peu coincé.
Avec Dieu, on n'est jamais coincé. Si c'est à cause d'un DVD que tu peux pas annoncer l'évangile, c'est dommage, quoi. Ouais. Mais tu vois, comme je dis, hein, moi je dis, il y a plus de joie à donner, du bonheur aux gens. Tu sais, ce que j'aime dans l'évangile, c'est que les promesses, c'est pas des promesses pour faire rêver les gens. L'évangile, c'est pas de la politique. Tu sais, la Bible, elle nous parle d'un principe, d'un style de vie, tu vois. Jésus est un style de vie, quoi. Si moi, j'aime mon prochain et que je lui fais du bien, et si tous les hommes de la terre et toutes les personnes qui soient haut placées aiment leur prochain, on n'aurait pas de problème. L'évangile est un évangile de paix, un évangile d'amour, de respect, tu vois, de partage.
Parce que toi, si je te comprends bien, pour peu qu'on soit sincère, hein, sincère, honnête, donc si tout le monde disait oui à l'évangile, donc quelque part, ce serait la solution à tous les problèmes et tous les maux du monde.
C'est ça, c'est ça. Monsieur Pompidou, la bite, là. Tu vois, ça, c'est l'église de la place du Laboureur, une église catholique, hein. Très ancienne, tu vois. Quand j'étais petit, j'avais peur de rentrer dans des églises comme ça. Ah oui, oui. Parce que, si tu veux, dans ma religion, on nous interdisait. Enfin, moi, mes parents m'interdisaient de rentrer dans des églises comme ça. Parce qu'il y avait trop de statues. Et puis il y avait aussi Jésus sur la croix. Alors moi, le Jésus qu'on me parlait, pour moi, il était sur la croix de l'église Saint-Martin.
Ah.
Tu comprends, quand je voyais ces monuments-là, je me disais, c'est la religion des Européens, c'est pas notre religion, c'est pas notre foi, c'est pas notre conviction. Et on disait haram, en fait, ça porte malheur si tu rentres dans une église comme ça. Alors que quand tu découvres le vrai Christ, il est plus sur la croix.
Il est où ?
Il est au ciel, il est au ciel, il est monté dans le ciel, bien sûr. Mais il peut être aussi dans ta vie, dans ton cœur, parce que Dieu est esprit. Je ne peux pas me prosterner devant une croix, il n'y a pas d'endroit où je peux me prosterner devant Dieu, si ce n'est que dans mon cœur. Je le prie là où je suis, et Dieu écoute. C'est ça qui est extraordinaire, tu vois. Je n'ai pas besoin de me lever 5 fois par jour pour faire la prière. Je n'ai pas de condition spéciale pour lui plaire, parce que j'y arriverai jamais. Et je sais que je ne serai pas sauvé par les bonnes œuvres. Et alors, quelles que soient les œuvres que je fais, je ne serai jamais sauvé.
C'est tout bénéfice.
Tu as tout à gagner avec Jésus. Tu n'as rien à perdre.
Alors, vous êtes convaincu ? Toujours pas. Bon, attendez, on n'a pas fini. On a encore jusqu'à 16 heures. Hein. On a un petit quart d'heure encore pour convertir ce qui reste d'auditeurs qui ne le sont pas tout à fait. Mais on voit bien, d'après les indications qui nous parviennent, que ça marche. Hein. Ça marche. Jésus avant. Jésus revient. Jésus est revenu. Au moins à Roubaix, sur ce petit marché. Il faut jamais oublier, on l'avait un petit peu oublié, que l'homme est un animal religieux et que la vérité nous emmerde profondément, tout comme la raison. Nous voulons de belles histoires.
Donc là, Jam, c'était avec ton petit cahier, ta guitare. Donc ça y est.
Tu vois, j'essaie de faire plusieurs chants qui soient en français, tu vois.
C'est une petite maison là.
On est chez quelqu'un. Ça commence tout doucement.
Parce que c'est un petit salon, les canapés, voilà, le fauteuil.
Tu vois, les églises n'ont jamais commencé dans des super temples. Non, mais il n'y en a pas. Tiens, Salia, quand je vous dirai dans le numéro 13, vous le prendrez. On va prendre ce chant qui dit « Le Seigneur marche dans la splendeur ».
Le Seigneur marche dans la splendeur et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice, et son armée remplit les cieux. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. À jamais.
Vous êtes de quelle origine ?
Je suis d'origine américaine, mais ça fait 30 ans que je suis en France. Je suis français naturalisé depuis 13 ans.
Comment
ça se
fait que vous êtes en France ?
Moi, je suis venu en tant que missionnaire. J'y travaille. Je suis pasteur de l'église baptiste, de la fédération baptiste. Je suis aussi aumônier de prison. Je suis à Lyon-Saint-Paul. Je travaille là-bas et on fait des cultes un dimanche sur deux.
Et vous avez quel âge maintenant ?
Oh, je suis vieux maintenant. J'ai presque 56.
Donc
je suis un vieux.
Hein. Vous êtes arrivé, vous aviez 26 ans.
Oui, j'étais envoyé par l'église américaine pour travailler en collaboration avec des églises baptistes françaises.
Mais des églises comme on est ici, une église maison ou alors
n'importe une église. Disons église maison. On est dans une maison pour le moment, mais ils espèrent avoir quelque chose de plus grand. C'est pas la maison qui fait l'église, ni le temple qui fait l'église, mais les gens.
Votre salaire, c'est quoi ?
Et toi, tu gagnes combien ?
Ben moi, ça dépend. en moyenne, 2000 euros.
Je suis un peu dans le même rayon que toi.
Ouais. Et moi, je travaille presque 7 jours sur 7.
Ah oui, moi, je travaille 7 jours sur 7 aussi. Hein.
Là, on sort de l'église maison. Voilà. Toujours le beau soleil.
Oui, oui.
Et il y en a beaucoup comme vous, des...
Oh, il y a des missionnaires, il y a beaucoup.
Des Américains, ouais, ici,
Ah oui, il y a beaucoup. Il y a des milliers, je ne connais pas exactement les chiffres, mais il y a des milliers de missionnaires.
Et pourquoi
étrangers.
La France?
Oh, parce que ça fait partie du monde.
Est-ce que c'est parce que ça fait partie aussi de ce qu'on appelle la fenêtre 10-40?
Allez, on est dans la fenêtre 10-40 à Paris. Pas forcément.
Géographiquement, elle est dans.
Géographiquement, on y est.
Ouais. C'est, donc géographiquement, c'est deux parallèles donc au-dessus de l'équateur
sont. Non, je sais ce que c'est, mais je suis pas sûr quand.
Qui sont les régions du monde les moins chrétiennes?
Oui, c'est vrai. mais je ne suis pas sûr qu'on a compté la France dedans.
En tout cas, l'idée est la même.
Oui, partout dans le monde. Hein. Il y a des missionnaires partout dans le monde. Il y a des Français qui passent en Amérique du Sud.
Tu viens avec moi, okay. Et puis vous aurez tout le loisir de discuter.
Et donc on va discuter.
D'accord, et donc on discute dès qu'on est au métro.
Oui, je te suis ou tu es à Place de la Liberté hein.
Place de la Liberté, c'est où là?
Oui, tu me suis? Ouais. Okay. Tu me suis?
Alors voilà, un élément quand même intéressant, c'est la présence de ce pasteur américain de l'église baptiste américaine, et ça nous renvoie, évidemment, souvenez-vous, nos reportages dans le sud des États-Unis, dans la Bible Belt, dans la ceinture de la Bible, et voilà, on va enseigner à toutes les nations dans ce christianisme-là, en Amérique latine, en Afrique, beaucoup, beaucoup, en Europe centrale, en Europe, nous appelons l'Europe de l'Est, et puis, voilà, maintenant, en France, dans ces quartiers où on est dans une situation de transition culturelle, c'est là où ces églises et ces missionnaires opèrent. Alors, l'église baptiste américaine, faut-il le rappeler, est créationniste et anti-darwiniste. Qu'est-ce que ça veut dire, ces idées? Ben, c'est l'idée que Dieu a créé la Terre et l'univers d'un seul coup, comme ça, d'un seul coup, d'un seul. Et puis Adam, et puis Ève, et puis ces images-là, c'est pas des images, c'est la vérité. C'est l'absolue vérité. Aussi, quand on trouve un petit peu alarmant, voire même très très alarmant, que certains prennent au pied de la lettre certaines sourates du Coran, il faut pas oublier quand même qu'une bonne partie de nos amis américains croient au créationnisme. Et par exemple, le président des États-Unis, George W. Bush, qui est un born again, eh bien, il est créationniste aussi. Voilà ce qui se passe à Roubaix certains jours, mais pas seulement à Roubaix. Là, on va aller, vous l'avez loupé, hein, je suis sûr que vous l'avez loupé, le salon des religions, c'est-à-dire le salon pour tous les chrétiens. Ça s'est tenu à l'espace Champéret du 13 au 15 janvier 2007. Et là, vous avez tout rapté, vous auriez pu tout comprendre. Non pas seulement, encore une fois, ne confondez pas, amis auditeurs de la basse J'y suis, le catholicisme, mais les christianismes. Et là, c'était tous les chrétiens qui étaient là, alors avec leurs convictions, bien évidemment, leur volonté viscérale de faire le bien, de diffuser la bonne parole, et puis aussi de vendre un peu de matériel divers et varié.
On arrive au stand, donc avec une belle théière pour accueillir nos gens, donc la culture de l'hospitalité. Puis donc sur le stand, nous avons un Nouveau Testament bilingue, donc arabe-français. À côté de ça, donc on a des super CD donc, de chants sacrés, donc des chants religieux, sacrés donc, du Moyen-Orient, donc avec le titre Shama, donc, qui signifie bougie ou lumière. Et nous avons aussi donc, notre ami James, donc Nouveau Soleil. Donc ça, c'est de la musique plutôt nord-africaine. Et à côté de ça aussi, vous avez une Bible complète aussi, complètement en arabe. Donc, qui est ici, puis qui est à disposition.
Et ça, c'est quoi?
Alors ça, c'est une petite brochure, bande dessinée, en tout cas pour nos enfants. Questions. C'est la vie de Jésus, c'est le parcours
donc
un petit peu de Jésus.
Donc il y en a pour tout le monde, jeune, moins jeune.
Oui, bien sûr, parce que donc on est mariés, on a des enfants. Tu vois, la fraternité, regarde, calligraphie, c'est magnifique. La liberté, l'hurriya.
Alors toi, aujourd'hui,
ouais.
T'es libre?
Complètement. Je ne suis plus enchaîné à un carcan, à une religion, ou à une politique, ou à un pays. Ma patrie, elle est céleste. Et puis de religion, j'en ai pas, mais surtout une relation. La Bible m'amène vraiment à une relation aujourd'hui concrète, palpable, où je rentre vraiment dans une intimité, une relation avec Dieu, qui est pour moi essentielle et importante.
Une annonce de cet
ouvrage. On parle de toi.
Oui, sûrement.
On te présente comme un pasteur itinérant. Et oui. À un moment donné, il y a justement ce petit volet de la conversion de ta grande sœur.
Oui, tout à fait, c'est elle. Hein,
et ça n'a pas été simple.
Ah non, ça n'a pas été sans conséquence, surtout pour une fille. Dans les années 80, quitter une religion pour épouser le christianisme, c'est un séisme, c'est un ouragan, c'est la pire des hontes. Elle était pour nous une kufara. C'était quelqu'un un renégat comme une traître. Quoi. Et c'est vrai que ce n'était pas évident pour nous d'admettre que ma sœur devienne chrétienne. C'est quitter son pays, sa nation, c'est trahir ses origines. C'est vraiment l'apostasie complète, la plus totale, surtout pour une fille. Donc c'est vrai que ça n'a pas été sans conséquence. Ça a été très dur pour elle, mais elle a quand même résisté parce qu'elle a fait une rencontre bouleversante. Je pense que si c'était quelque chose d'émotionnel, si c'était pour devenir française ou alors devenir pour s'intégrer, je pense qu'elle n'aurait pas résisté. Mais là, vraiment, elle a découvert une foi vivante dans le Christ.
Elle n'aurait pas résisté à la pression que vous lui avez
mise. Tout à fait, une pression psychologique, mentale, physique. Je crois qu'elle n'aurait pas résisté. Mais physique. Tellement, oui, tellement elle aimait le Christ, en tout cas, elle a résisté. Et puis là, c'est là où j'ai vu que cette foi qu'elle avait, elle était vivante, elle était réelle, en tout cas. C'était vraiment une foi vraie, vivante.
Là, t'en parles, t'as une petite montée de pression quand on parle de ça, justement, par rapport à ta sœur.
Bah, on l'empêchait d'aller à l'église, tout simplement, pour ne pas aller plus loin. Voilà, pour rester gentil, on va dire qu'on l'empêchait énergiquement de ne pas aller à l'église. Puis on s'est rendu compte, moi-même le premier, en allant l'espionner à l'église, ben je me suis converti.
Tes parents t'envoyaient derrière elle ?
Tout à fait, je suis allé l'espionner, je suis rentré dans l'église. Et c'est vrai que quand je suis rentré dans l'église, ça a été bouleversant de voir tous ces croyants, ces chrétiens qui se mélangeaient comme de l'eau dans l'eau. Ça a été un bouleversement pour moi de rencontrer un peu cette communauté chrétienne en tant que musulman. C'est sûr.
C'était où ça ? Au Maroc ?
C'était dans les Vosges, dans le nord-est. Mais bon, au Maroc, il y a une forte communauté marocaine chrétienne encore aujourd'hui. Je pense que la même histoire aurait pu m'arriver aussi dans mon pays d'origine, sans problème. Parce qu'il y a une très forte communauté marocaine chrétienne, en tout cas aujourd'hui.
Alors vous êtes juste à côté ?
Oui.
Partagez un petit espace, une autre table. Vous êtes là avec un grand drapeau. Bleu, blanc, rouge, marche pour Jésus.
Pour proclamer le nom de Jésus dans les rues de Paris, pour que les chrétiens s'expriment et disent aux Parisiens et aux Français, à la France, que les chrétiens ont la foi, que Jésus est venu apporter la bonne nouvelle et qu'on la porte.
Et on veut simplement, par la marche pour Jésus, dire ben, on vient de quelque part, il y a un historique en France, nous sommes des chrétiens, on vient des valeurs chrétiennes et il est important maintenant de les rendre plus visibles parce qu'il y a d'autres mouvements à côté, complètement athées notamment, hein, on ne parle pas que de l'islam, mais on parle aussi des athées et d'autres gens qui sont... On n'a rien contre eux, mais il est important de savoir que les valeurs chrétiennes, c'est ça qui ont fondé la société, qui permettent véritablement à la paix d'être installée.
Pourquoi ce besoin de l'affirmer ?
Parce que les valeurs de la famille ne sont plus mises en exergue. Les valeurs du couple, de la famille, les valeurs de la vie. On essaye de trouver d'autres fondements pour régir la société et puis les relations humaines. Et on est dans une société adolescente qui ne prend plus en compte l'expérience des pères. Et c'est l'immédiateté, c'est l'émotion, c'est on fait ce qu'on a envie, quand on le veut, avec n'importe qui, avec n'importe quoi.
Il y a votre drapeau là qui est tombé.
Nous voulons résister. Résister à cette emprise de la perte des valeurs et des sens, du sens. Retrouver le sens de la vie. Pourquoi on est là et où est-ce qu'on va ?
Alors ça c'est génial parce que dans ce petit espace, il y a deux stands, le vôtre. Et juste à côté, celui de Seydou Djibou et sa petite famille. Donc d'un côté, vous avez le discours alors il y a une perte de vitesse, il y a des valeurs qui se perdent. Et puis d'un autre côté, il y a le dynamisme.
Oh ben, ça,
c'est du renfort.
Ça montre que Dieu est vivant et qu'il agit toujours. Et en termes de renfort, c'est d'abord et avant tout l'objectif de Dieu de se répandre sur le monde entier, que tout le monde devienne vraiment chrétien et pratique sa foi.
Et j'aimerais ce soir que Karim nous interprète un chant, ce dernier chant, avant en tout cas de pouvoir expliciter un petit peu ce texte biblique qui a été partagé dans cette belle langue extraordinaire qu'on retrouvera dans l'éternité, en arabe et puis en français. Et j'aimerais que Karim interprète ce chant et nous allons nous lever vraiment ensemble et nous réjouir.
Hallelujah, the nice safe scene of C'était une nouvelle diffusion du reportage de Dila Tayebi. Tendez l'oreille et votre âme vivra. Merci à Saïd, Jams, Soufiane, Kea et à George l'Américain. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission, là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Christian Thibaudot, Xavier Lévesque, réalisation Yann Chouquet et Coyen Guyen. Assistante, Charlotte Perry, chef du répondeur, Christophe Humbert. Il attend vos messages au 01 56 40 37 37. Catherine, en 1998, Jésus-Christ, mon amour. Dans quelques instants, nous allons retrouver Frédéric Lodéon.